Radio Django, la rose des vents.
La semaine dernière, la rose des vents proposait un sujet sur la situation des droits de l'homme au Kivu, en République démocratique du Congo. Et ce soir, on parle des chambres foraines, un instrument pour lutter contre l'impunité. Ce soir, nous restons donc au Kivu pour vous parler de la condition des femmes et de leur combat quotidien dans cette région encore en guerre. Daniel, pour commencer, pourriez-vous nous dire quelques mots à propos de ce conflit ?
Alors, par définition, toute guerre est sale, mais celle qui sévit dans l'est du Congo depuis bientôt 20 ans, reste singulière et pernicieuse. Bien que des tensions politiques couvaient depuis longtemps, c'est le génocide rwandais de 1994 qui a précipité cette région dans la tourmente.
Et 20 ans après, la situation est-elle toujours aussi instable ?
Alors oui, plutôt. Depuis, l'est du Congo est en déliquescence et reste soumis à un désordre général dû à la multiplication des factions armées, nationales et étrangères, des périodes de guerre civile, des luttes sans nom pour le pouvoir central et régional et un manque d'organisation institutionnelle et un État quasi absent.
Et qui sont les principales victimes de ces conflits armés ?
Alors les premières victimes de ce drame restent les femmes. L'est de la RDC continue d'être une zone de non-droit où la guerre se fait sur le corps de la femme. Le 8 mars 2016, journée internationale de la femme, nous devions recevoir sur les ondes de Django Kadi Azuba, juriste de formation et journaliste à Radio Okapi, une radio locale du Kivu, parrainée par la Fondation Hirondelle, pour parler des droits de la femme et de la condition des femmes dans cette région. Engagée et militante, Kadi Azuba a reçu plusieurs prix, dont le prix Princesse des Assuries de la Concorde en octobre 2014, dans la catégorie « Violence faite aux femmes ». Suite à des problèmes de réseau avec le Kivu, l'entretien n'a pas eu lieu. Et dans l'intervalle, néanmoins, nous avons pu recevoir donc l'interview de Kadi sous forme de son. Son que nous ferons découvrir à notre invité Mike Hoffman, fondateur de Vivere, une association très engagée dans le sud du Kivu, en RDC.
Bonsoir, monsieur Hoffman. Vous avez donc fondé en 1999 à Lausanne Vivere, qui est, comme l'a dit notre ami Daniel, un mouvement solidaire de lutte en faveur des droits humains. Et Vivere soutient des initiatives individuelles ou collectives venant en aide aux oubliés des médias et des grandes opérations humanitaires. Active dans plusieurs régions du monde, votre association était aussi présente au Kivu. Quelles sont vos principales actions dans cette région, notamment auprès des femmes, monsieur Hoffman ?
Merci. Merci de nous recevoir sur votre antenne qui est si importante, utile et sympathique. Vivere travaille depuis 2004 dans cette partie-là à l'est du pays. Rapidement, donc, nous sommes engagés dans deux des grands territoires, le Nord Kivu, où nous participons à la protection de 130 femmes adultes victimes de viols, abandonnées par leur époux et contaminées par le sida, et où nous soutenons et nous protégeons également 8 jeunes filles adolescentes, également victimes de viols, et qui ont eu un enfant qui est issu, disons, de ces violences. Voilà. Au sud Kivu, nous en sommes à la 23e opération de chambre foraine du tribunal militaire garnison d'Uvira, et nous assistons par ailleurs 19 adolescentes qui, dont la scolarité avait été rompue suite aux faits de guerre et qui étaient volontaires à reprendre l'école. Donc nous parrainons, disons, la remise à l'école de ces 19 jeunes filles.
En 2013, la journée de la femme au Congo porta sur le thème « Ensemble contre la guerre et les violences faites aux femmes et aux filles » en consolidant la paix et la justice en RDC. 3 ans plus tard, quelles sont les avancées de ce thème ? Je demandais à Kadi en quoi cette journée avait permis d'initier des projets ou certaines initiatives en faveur des droits des femmes dans le Kivu.
Disons tout d'abord que la lutte pour le droit des femmes en RDC a toute une histoire et cela ne date pas de 2013. La journée du 8 mars consacrée aux droits des femmes est une journée importante pour les femmes congolaises pour renforcer la lutte et profiter de faire entendre leur voix. Des actions, des plaidoyers et même des séances de sensibilisation sont organisées en marge du mois de la femme. Tout ceci uniquement pour arriver à passer un message et à mobiliser également l'opinion tant nationale nationale, locale qu'internationale, sur cette question des droits des femmes et particulièrement la situation des viols et violences sexuelles faites aux femmes à l'est de la République démocratique du Congo. Concrètement, les organisations des femmes, mais aussi les organisations de défense des droits de l'homme, s'activent, et c'est là depuis plusieurs années, dans l'objectif d'obtenir le respect des droits des femmes et l'éradication complètement du phénomène de viol et violences faites aux femmes qui gangrènent notre société. Pour l'instant, je me réserve personnellement de parler d'un bilan positif, mais toutefois, il y a des avancées significatives qui continuent à encourager les femmes à continuer, parce qu'il y a quand même des lois qui sont légiférées, les instances nationales sont sensibilisées. Ce qui reste, c'est la concrétisation des promesses politiques, le respect des lois et également mettre fin à l'impunité. Et cela nous permettra, une bonne fois pour toutes, d'éradiquer les viols et toute autre forme de violence faite aux femmes.
Mike, qu'est-ce qui freine finalement la mise en place d'un tribunal pénal international en RDC ?
Alors, chacun se rappelle qu'il existe une cour criminelle internationale à La Haye, d'ailleurs où un triste personnage, Jean-Pierre Bemba, congolais, a été condamné. Voilà. Donc cette cour est toujours ouverte, disons, aux crimes de cette magnitude. Voilà. Mais maintenant, je pense que vous faites référence à un tribunal spécifique, comme il y en a eu pour la Bosnie, comme il y en a eu
en Sierra Leone.
Comme il y en a eu pour le Rwanda, dont le siège est à Arusha, en Tanzanie. Alors, nous pensons effectivement, vous avez parfaitement raison, que vu la quantité, la gravité des crimes commis à l'est du Congo, notamment, un tribunal international ad hoc devrait se tenir. Pour cela, il faut déjà que le pays soit demandeur. À ma connaissance, la République démocratique du Congo n'a pas encore adressé aux instances internationales une demande dans ce sens-là. D'autre part, il faut qu'il y ait des enquêtes qui soient conduites par des enquêteurs mandatés par le tribunal en toute impartialité. Je dois dire qu'il y a eu quelques enquêtes au Nord Kivu, mais à notre connaissance, zéro au Sud Kivu. Si vous n'avez pas d'enquête, vous n'avez pas de matériel pour incriminer, si vous voulez, les tortionnaires et les tueurs. Voilà.
Et partant de ce postulat, vous avez décidé, avec l'UCPDO et Vivere, donc, de constituer des chambres foraines. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots leurs fonctions, s'il vous plaît ?
Alors, nous travaillons avec le tribunal militaire, donc, qui a à connaître des crimes de sang, des viols et d'autres violations graves commis par des hommes en uniforme, principalement des soldats et des policiers. Voilà. La particularité de notre travail est donc de déplacer le tribunal, de le sortir de ses murs, si j'ose dire, et de l'emmener en brousse dans des lieux où des crimes massifs ont pu être commis et où la population donc, vit toujours sous la terreur que les seigneurs de guerre puissent sévir. Le but de ces opérations en déplaçant le tribunal, c'est un, de traduire en justice donc des tueurs, des massacreurs ou des violeurs, etc., vraiment des bandits. Deux, de rapprocher la justice des justiciables, parce que nous allons en brousse, si vous voulez, là où les gens n'ont jamais vu une toche d'avocat de leur vie. Et puis tout d'un coup, ils voient chez eux se dérouler un tribunal en plein air avec tous les mécanismes, si vous voulez, propres à la justice. Et puis troisièmement, bien entendu, nous espérons dissuader des méchants qui se cachent encore dans l'ombre et qui seraient tentés à leur tour de commettre des exactions contre la population.
Et à ce jour, vous avez réussi finalement en fait, à dénoncer combien de crimes et combien de victimes sont venues vers vous pour justement relater leur histoire ?
Voilà, en 23 opérations, donc la première s'est déroulée en 2006. De mémoire, il y a 113 victimes qui ont été représentées. Voilà. Et 113 coupables, voilà, qui ont été condamnés, et 121 victimes qui ont été représentées.
Finalement, on se rend compte que ces chambres foraines sont une manière, comme nous l'expliquera Kadi, de concrétiser cette lutte contre les violences faites aux femmes. Écoutons Kadi.
Depuis 2013, les organisations qui travaillent à la base continuent leur combat. Celles qui travaillent au niveau international, mais également au niveau national, continuent également leur lobby, leur plaidoyer, et continuent à travailler pour essayer d'avoir une situation favorable de respect des droits des femmes. Ici également, de signaler, de préciser que le chemin reste très long. Aujourd'hui, les viols faits aux femmes continuent et les défenseurs des droits de l'homme sont unanimes à ces points. quant à la persistance du viol. Réitérons tout de même que l'ampleur n'est pas la même qu'il y a quelques années. Le viol persiste dans les zones à forte concentration de groupes armés, mais malheureusement, un nouveau phénomène a vu le jour, hein, les viols sur les nourrissons et les petits-enfants, mais également nous vivons une situation de viol dans nos quartiers, les viols dans la ville, et donc pour dire que les violences sexuelles se sont urbanisées.
Face à la persistance des viols, serez-vous conduit dans les années à venir à multiplier les chambres foraines ?
La volonté est tout à fait là, et malheureusement, je dirais, le terrain de la criminalité est là, qui mériterait effectivement de faire davantage d'opérations. Tout est une question de ressources. Voilà. À présent, avec les ressources que nous collectons, nous pouvons conduire une à deux opérations par an. Sur le terrain, nous aurions la capacité d'en conduire quatre par an.
Et ce sont des opérations, pour le rappeler, qui coûtent entre 3 et 6 000 dollars, je crois.
Oui, à peu près. Tout dépend, si vous voulez, de la distance à parcourir pour faire siéger le tribunal plus ou moins profondément en brousse.
Et donc ce sont des fonds qui sont avancés par Vivere et une partie par l'ONU. L'ONU, partiellement.
Par l'ONU. Hélas, 0 francs, 0 centimes par l'ONU. Ils y sont invités systématiquement depuis 2006, mais malheureusement zéro.
Ne serait-ce que pour la logistique, il y a un petit investissement, je
nous
crois.
Nous les avons sollicités au moins pour nous transporter le tribunal, l'escorte, les criminels,
les
etc. À chaque fois, on ne nous dit jamais non, mais à la dernière minute, il y a toujours une autre urgence, voilà, pour transporter des gens avec des étoiles sur les épaules plutôt que le tribunal. Donc on n'a jamais eu d'aide logistique non plus.
Ils ont donc d'autres priorités. Mike, malgré la présence d'ONG locales et internationales et des promesses politiques, les femmes continuent donc d'être les principales victimes. Quel regard portez-vous sur la situation actuelle, si on repense entre autres au massacre de Beni, et pour quelles raisons le corps de la femme reste une cible privilégiée ?
Vous l'avez dit au début de l'émission, donc toute cette partie, cette immense partie qui est grande comme, je sais pas, un tiers de l'Europe, de l'Est du Congo, est un territoire de non-droit. À l'exception de quelques îlots, peut-être, quelques-unes des villes principales, le reste, disons, du territoire et de la population est soumis quotidiennement, même à l'heure où nous parlons maintenant, aux exactions, voilà, les plus graves et les plus condamnables. Voilà.
Maintenant,
pourquoi la femme ? Écoutez, ça nous conduirait presque à la métaphysique, mais si j'ose dire, parce qu'elle est sacrée. Elle représente quelque chose de sacré.
Mais est-ce que vous pensez qu'il y a une dimension culturelle dans le fait de s'attaquer aux femmes ? Et est-ce que c'est un phénomène qui est connu dans d'autres contrées en conflit ?
En violentant la femme, avec un acte, on démultiplie le crime. Parce qu'on touche la fille, l'épouse et la mère.
Et l'identité de l'homme.
Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que dans les esprits malsains et criminels, si vous voulez, on va se défouler, voilà, on va se venger, on va réprimer en attentant à la femme.
Et quand on parle des viols de masse et de crimes de guerre, c'est deux choses qui sont corrélées. Effectivement, on peut utiliser le corps de la femme comme une arme de guerre. C'est ce qui se passe.
Tout à fait. Dans certaines situations, donc dans les enquêtes qui ont été menées, auxquelles nous avons participé, il a été prouvé, si vous voulez, qu'il y a des commanditaires qui peuvent, dans certaines situations, d'ailleurs c'était le cas en Bosnie aussi, commander à leurs hommes, voilà, d'attenter particulièrement aux femmes en commettant non seulement des viols, mais également des violences sexuelles que j'ose à peine décrire ici à l'antenne.
La situation des femmes au Congo est-elle plus alarmante que dans d'autres zones de conflit du monde ?
Alors, hélas, non. Hélas, non. À notre connaissance, nous ne parlons que de ce que nous connaissons et du travail que nous faisons, les souffrances des femmes congolaises est vraiment ultime, mais celle des femmes syriennes que nous essayons de protéger, qui sont dans les prisons de Bachar et soumises à la torture, est tout aussi, je dirais, atroce, innommable. Celle des victimes du trafic des êtres humains, dont l'origine concerne toute une série de pays en voie de développement et qui sont exploités sexuellement ou autres dans des pays, disons, riches, entre guillemets, est également un enfer.
Une souffrance reste une souffrance. Sorti en salle en Suisse et en France en 2016, le dernier documentaire « L'homme qui répare les femmes » réalisé par Thierry Michel et Colette Brackmann a été, quelques semaines, censuré au Congo. le gouvernement congolais s'est finalement ravisé. Je demandais à Kadi comment ce film avait finalement été reçu et surtout en quoi sa diffusion pourrait susciter une prise de conscience nationale et plus de solidarité locale.
Oui, nous avons très bien accueilli ces documentaires, L'homme qui répare les femmes, La colère d'Hippocrate du réalisateur belge Thierry Michel, de sa compatriote Colette Brackman qui met en exergue les travaux du docteur Mukwege et en passant par la vie au quotidien, la situation de violence sexuelle. Et on ne peut pas dire que ce film, cette projection, ces documentaires pourra améliorer la condition des femmes. Non, c'est juste un outil de sensibilisation. C'est un outil qui explique ce qui se passe, ce qui se fait. Les hommes et les femmes courageux qui ont essayé de lutter, qui ont essayé de dire non à la situation des violences sexuelles. Et donc, ce qui pourra améliorer la condition de la femme, la condition des femmes dans les Kivu, c'est tout simplement un travail au niveau politique, un travail au niveau économique, un travail au niveau social. Et avec l'effort de tout le monde, l'État congolais en premier plan, et cela va nous aider à plus améliorer notre situation, mais également la justice qui a une place très très importante, primordiale dans la réglementation de ces problèmes, également dans la prise en charge juridique des personnes victimes de violences sexuelles. On peut dire que ce documentaire, c'est juste pour montrer l'ampleur de la situation, pour mettre en avant les travaux des certaines personnes et également pour montrer également comment ces femmes victimes d'hier sont aujourd'hui devenues des femmes leaders, des femmes courageuses, des femmes qui dénoncent, parce qu'avant on ne dénonçait pas, avant c'était difficile de parler de violences sexuelles.
Longtemps les sévices sexuels sont restés tabous au Congo et notamment au Kivu. Comme l'explique Kadi, les femmes aujourd'hui victimes osent dénoncer. Et pour quelles raisons de nombreuses femmes ont pendant très longtemps gardé le silence ?
Je pense que comme partout au monde, quand une femme a subi un viol, le risque majeur ensuite, c'est d'être survictimisée. Survictimisée par la stigmatisation, le rejet par sa famille, voire par son époux, la perte de ses enfants. Voilà. Et malheureusement au Congo, dans beaucoup de cas de viol, un enfant donc va naître suite à cet acte, et la situation de cet enfant, la maman le sait, la femme le sait, sera d'autant plus stigmatisante que la communauté saurait que l'enfant est issu d'un viol.
Et à ce sujet, Vivere donc a ouvert des infrastructures pour s'occuper en fait de ces femmes qui ont eu un enfant, et vous les accompagnez aussi dans certaines régions.
Tout à fait. Alors le mérite ne nous revient pas à nous. Nous soutenons un partenaire, disons, avec lequel on a eu l'idée, le concept, mais c'est le partenaire qui met en œuvre.
Les hommes sont aussi victimes de viols et ces violences ont longtemps été négligées. Pourquoi ce déni ? On en a très peu parlé dans les médias internationaux.
Je ferai un parallèle avec les femmes. La honte, la stigmatisation, voilà. Et puis le caractère peut-être orgueilleux ou vaniteux de l'homme qui ne veut jamais s'avouer inférieur, voilà, peut-être à correspondant à la réalité de ce qu'il a vécu.
Malgré toutes ces situations scabreuses, la femme au Kivu est encore debout. Elle joue non seulement un rôle essentiel dans le processus de reconstruction de la paix, mais elle joue aussi, comme nous l'explique Kadi, un rôle capital dans l'économie de cette région.
Au Kivu, la femme a une place très importante. C'est elle qui est au cœur de l'économie informelle. C'est elle qui porte les commerces à travers toute l'étendue de la province du Sud Kivu. Depuis bien d'années, l'homme qui était au cœur de l'administration publique, cette administration publique qui a failli ou qui est tombée en faillite carrément depuis la période mobutiste où nous avons connu la dictature, mais également avec les guerres et l'instabilité politique. L'administration publique ne satisfait pas au fait la population parce que nous vivons plus de chômage, nous avons un problème, les agents de l'État, l'administration publique, les agents ne sont pas bien traités. Alors la femme a pris le relais pour la survie de la famille. Avec le temps, ces activités se sont avérées très importantes pour la communauté, pour tout le pays, car les activités des femmes ont pris de l'ampleur, entre autres les commerces et aussi l'agriculture, l'élevage et elles sont devenues les poumons économiques dans les secteurs informels. Elles sont à 70% responsables de survie de leur ménage. Qui parle de ménage, qui parle de famille, qui parle de famille, on voit la communauté et également toute la société. Et si la femme qui n'a pas la place dans les sphères de prise de décision, dans les instances des prises de décision, elle essaye, elle montre ce dont elle est capable avec sa situation de résilience, c'est-à-dire elle se bat dans la situation, selon la situation dans laquelle elle vit. Et imaginez maintenant si elle a la place, elle participe à la décision de développement du pays, à la décision politique du pays, nous serons carrément avancés. Hein. Et c'est pourquoi nous continuons de nous battre, parce que nous savons très bien que ces pays ne peuvent pas avancer si la femme ne participe pas et si la femme continue toujours à être derrière les rideaux. Ça ne peut plus marcher, ça ne peut pas marcher. Et voilà le combat que nous sommes en train de mener et nous sommes en train de faire comprendre tout le monde qu'il faut que la femme participe afin que ces pays puissent décoller.
Mac, dans quelle mesure pensez-vous que l'accès des femmes a de réelles responsabilités, autant sur la scène politique que dans les syndicats et dans les associations, est nécessaire pour que ce pays puisse décoller, comme le précise Kadi ?
Comme partout au monde, la femme libérée du joug de la discrimination a autant de capacités que l'homme à être actrice, productrice et visionnaire dans les domaines de la société civile, de la culture, de l'économie, du politique et du social. Tout autant que l'homme, la femme peut tirer notre humanité vers le haut, et souvent, elle le fait bien mieux que les hommes.
Merci à Mike et Kadi. Et comme le souligne la journaliste Colette Breckmann, qui est journaliste belge responsable de l'actualité africaine pour le journal Le Soir, ces femmes ne sont pas victimes toute leur vie. Ce sont d'abord des femmes qui veulent se battre, se redresser et qui se reconstruisent après toutes ces horreurs qu'elles ont traversées. Elles veulent recommencer à vivre. Et merci à Daniel pour ce sujet. Et retrouvez tous les sujets au sujet du Kiviu en vous rendant sur le site de la radio sur www.django.fm. Mungu wangu, apana tena.